Le nouvel Hollywood. Outre-Atlantique, à une décennie de là, le cinéma s'affranchit aussi des codes anciens. Après le succès inattendu d'Easy Rider, sorti en 1969, film de bikers à petit budget, une génération de jeunes metteurs en scène issus de la contre-culture émerge durant les années 1970. Regroupé sous la bannière du nouvel Hollywood par le journaliste Peter Biskind, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Martin Scorsese ou Brian De Palma, pour ne citer que les plus connus, revisitent les thèmes du cinéma américain classique que sont la violence, l'errance, la marginalité, etc., pour les refondre dans un moule nouveau, tournant avec des acteurs encore inconnus comme Robert De Niro, Al Pacino ou encore Jack Nicholson. En quelques années, ces réalisateurs deviennent les nouveaux nababs d'Hollywood et réalisent des films tels que Le Parrain par Coppola en 1972, Les Dents de la Mer par Spielberg en 1975 ou Taxi Driver par Scorsese en 1976. Le cinéma contemporain. Après plus d'un siècle d'existence et bien des vicissitudes et des crises, le cinéma se porte bien, même si on a de nombreuses fois annoncé sa fin. La prolifération des cinémas nationaux et des œuvres originales dans le monde sont le signe de sa vitalité. En voici quelques exemples. En Angleterre, Ken Loach remporte la Palme d'Or 2006 pour Le Vent se lève. En Belgique, Luc et Jean-Pierre Dardenne remportent la double Palme d'Or avec Rosetta en 1999 et L'Enfant en 2005. Lucas Bellevaux remporte également une Palme d'Or pour sa trilogie Un couple épatant, Cavale, Après la vie, en 2002. En Égypte, Youssef Chahine est distingué lors du 50e Festival de Cannes avec de nombreux films tels Le Destin de 1997 ou Alexandrie New York de 2004. En Espagne, Pedro Almodovar est récompensé deux fois à Cannes pour Tout sur ma mère en 1999 et Volver en 2006. Aux États-Unis, David Lynch est reconnu pour son premier succès, Elephant Man en 1981. Steven Soderbergh remporte la Palme d'Or en 1989 avec Sexe, mensonge et vidéo, sans oublier les inusables Woody Allen ou Clint Eastwood. En France, citons entre autres Arnaud de Pléchin et Comment je me suis disputé ma vie sexuelle en 1996, Olivier Assayas et son Fin août début septembre en 1999 ou Laurent Cantet et son film Entre les murs en 2008. À Hong Kong, Wong Kar-wai réalise le troublant In the Mood for Love en 2000. En Iran, Abbas Kiarostami se révèle avec Où est la maison de mon ami en 1987. En Italie, Nanni Moretti et son retentissant appel Le Caïman en 2005.
Le saviez-vous? The winner is? Si l'on vous demande quel est le plus gros producteur de films au monde, que répondrez-vous? Les États-Unis? Mauvaise pioche. Le pays qui, chaque année, produit le plus de films est l'Inde. Eh oui. Avec plus de 1000 films par an, l'Inde décroche la palme de la production cinématographique. Loin devant la France, qui n'est pourtant pas mal classée, et les États-Unis. Désormais passée dans le langage courant, l'expression Bollywood, qui est la contraction de Bombay et d'Hollywood, désigne à la fois l'industrie cinématographique et le cinéma indien. Son genre dominant repose sur les intrigues sentimentales qui se terminent bien, accompagnées d'intermèdes de chants et danses traditionnelles, extrêmement appréciées du public. La très riche mythologie indienne composée du Mahabharata, du Ramayana et de la Bhagavad Gita, relatant les exploits des dieux et mettant en scène le séduisant Krishna ou le terrible guerrier Arjuna, remporte aussi un vif succès à l'écran. Le fond mélodramatique très pudique entraîne totalement le public. Il faut assister à une séance de cinéma en Inde dans un quartier populaire. Le spectacle est aussi dans la salle. Chants repris en chœur. Méchants hués. Héros et héroïnes largement applaudis. Le tout dans un incessant va-et-vient puisque l'on dîne ou déjeune sur place. Il faut dire que la durée moyenne d'un film est de 4 ou 5 heures.
Grand genre, grand film. Mais le cinéma n'est pas qu'une aventure linéaire d'héritage et de rupture, d'innovation technologique ou esthétique. Nous avons bien vu que, dès son invention, il a constitué un moyen d'expression aux multiples facettes. Des genres s'y sont créés, comme dans tout art, pour permettre à toutes les sensibilités de s'y confronter, à toutes les visions de s'y incarner. Les réalisateurs prennent le parti de la fiction, du documentaire ou du cinéma expérimental et traitent différents thèmes pour différents publics. À l'intérieur de chaque grande catégorie se distingue un certain nombre de genres. Ainsi, la fiction recouvre-t-elle aussi bien la comédie, le drame et le fantastique que le film catastrophe ou la fresque historique? Nous n'entreprendrons pas ici une histoire thématique du cinéma, mais proposons un petit voyage, forcément arbitraire, au gré des programmes des salles obscures, d'un genre à l'autre parmi les principaux pour en présenter les caractéristiques essentielles. La fiction représentant le gros des troupes parmi les productions cinématographiques, c'est surtout à son sein que nous allons nous nourrir et nous laisser transporter de l'autre côté de l'écran. Attention, ça tourne. Le film historique. Vous rêvez de vous fondre dans la vie d'un grand personnage? Vous voulez vous glisser dans la foule qui a assisté aux événements majeurs de l'histoire? Le film historique reprend un événement historique réel ou la vie d'un personnage historique et fait revivre à l'écran les gloires ou les déconvenues qui ont jalonné les siècles. Il se décline sous plusieurs formes selon les époques ou les thèmes abordés. Le péplum. Le péplum, qui signifie tunique en latin, fait revivre l'Antiquité. Ce genre date du temps du cinéma muet avec Quo Vadis, sorti en 1913, et Cabiria en 1914, dans lequel apparaît pour la première fois le personnage de Maciste, un culturiste doté d'une force colossale. L'âge d'or du péplum se situe dans les années 1950 et 1960, et l'Italie s'en est fait une spécialité. Citons la série des Hercules et des Maciste. Les Américains ne sont pas en reste avec Ben-Hur, sorti en 1959, Cléopâtre en 1963 ou les Dix Commandements en 1956. Après un temps d'oubli, le péplum connaît un renouveau avec la sortie de Gladiator en 2000.
N'oubliez pas, arrête ton char. Ben-Hur, réalisé par William Wheeler en 1959, est l'histoire de la condamnation, de l'envoi aux galères, puis de la réhabilitation du prince de Judée, Juda Ben-Hur. Au fil de ses exploits, Ben-Hur rencontre sur son chemin son ami d'enfance, Messala, devenu romain et son ennemi mortel. À l'issue de la très célèbre course de chars qui les oppose, Messala meurt piétiné par ses propres chevaux et ceux des autres chars. Ben-Hur, qui se déroule au début de notre ère, c'est aussi le destin qui met deux fois de suite le héros en présence du Christ, et le miracle accompli par le sang de ce dernier, qui, en tombant sur la sœur et la mère de Ben-Hur, au pied de la croix, les guérit de la lèpre. Épopée de près de 3 heures et demie, Ben-Hur reçoit en 1960 11 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur, pour Charlton Heston, dans le rôle-titre.
Le film de Cappé-d'Épée. Le film de Cappé-d'Épée a lui aussi une toile de fond historique. Il se déroule généralement entre le XVe et le XVIIIe siècle et met le plus souvent en scène des hommes courageux au service de belles dames. Fanfan la Tulipe de Christian Jacques, sorti en 1952, compte parmi les plus célèbres. Citons également Les Trois Mousquetaires, adapté du roman d'Alexandre Dumas. Le thème est inusable. Il n'en existe pas moins de 13 versions depuis celle de André Calmette en 1912 jusqu'à celle de Janice Simermanis en 2005.
Le saviez-vous? Un valet de premier plan. Les Trois Mousquetaires, d'André Hunebelle, sorti en 1953, est un film franco-italien. Tiré du roman d'Alexandre Dumas, il compte les aventures du jeune et valeureux Charles d'Artagnan, cadet de Gascogne venu à Paris pour intégrer la compagnie des mousquetaires du roi Louis XIII. Mêlé aux intrigues de la cour, notamment celle du cardinal Richelieu, d'Artagnan et ses compagnons, Athos, Porthos et Aramis sauvent l'honneur de la reine de France et ils trouvent l'amour en la personne de sa lingère, Constance Bonacieux. Film de cape et d'épée par excellence, cette version des Trois Mousquetaires est fameuse par la savoureuse interprétation de Bourvil dans le rôle de Planchet, valet de D'Artagnan.
Le western. Le western appartient aussi au genre du film historique. Son action se déroule au XIXe siècle en Amérique du Nord, essentiellement au moment de la conquête de l'Ouest. Le tout premier est L'attaque du train. Il sort en 1903. Les années fastes du genre se situent entre 1930 et 1960, avec notamment La chevauchée fantastique en 1939, Le train sifflera trois fois en 1952, Règlement de compte à Hockey Corral en 1957, Les sept mercenaires en 1960 et Rio Bravo en 1959. Le nom de certains acteurs est définitivement lié au western, comme ceux de John Wayne, Henry Fonda ou Gary Cooper. Au milieu des années 1960, le western devient Western Spaghetti, avec les films de Sergio Leone. Ce surnom cruellement ironique lui est donné par les Américains en raison de son origine italienne. La différence entre les deux types de western réside surtout dans le traitement des personnages. Le western classique oppose les pionniers blancs, vertueux et courageux aux Indiens perfides. Les héros du western spaghetti, sales, déguenillés, ivrognes et coureurs de jupons, sont préoccupés surtout d'eux-mêmes. Ils ne dédaignent pas une noble cause, à condition d'en tirer profit. Les plus célèbres sont Pour une poignée de dollars, sorti en 1964, Le bon, la brute et le truand, en 1966, et Il était une fois dans l'Ouest, en 1969. Tous sont réalisés par Sergio Leone.
N'oubliez pas, des trophées emportés par le vent. La chevauchée fantastique, sortie en 1939, de son titre original Stagecoach, fut réalisée par John Ford. L'histoire se déroule en Arizona, dans l'espace clos d'une diligence qui emporte 9 personnes très différentes. Dallas, une prostituée, Josiah Boone, un vieux médecin alcoolique, Mrs. Mallory, une femme enceinte d'un officier qu'elle va rejoindre, Gatewood, un banquier véreux en fuite avec la caisse, Mr. Peacock, un vendeur de whisky, Ringo Kidd, un justicier à la recherche des frères Plumer, l'assassin de son père et de son frère. Hatfield, un joueur professionnel. Curly Wilcox, le shérif. Enfin, Buck, le conducteur de la diligence. Tous ces destins vont se mêler, s'opposer, sur fond de danger des attaques menées par les Indiens Apaches du chef Geronimo. En dépit de situations sociales peu reluisantes parfois, le film met l'accent sur les vertus de courage des pionniers de l'Ouest, opposés à la sauvagerie indienne. Lors de la cérémonie de remise des Oscars, en 1940, le film est nominé 7 fois. Mais il se présente la même année que « Autant en emporte le vent », qui rafle la mise avec 9 trophées. C'est donc surtout par l'interprétation de John Wayne dans le rôle de Ringo Kidd, qui lance sa fabuleuse carrière, que le film est connu.
Le biopic. Le film biographique entreprend de retracer au travers des épisodes de la vie du personnage principal toute une histoire et son contexte. Les pionniers en sont Napoléon d'Abel Gance, sorti en 1927, et Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, sorti en 1953. Le genre connaît aujourd'hui un succès considérable. Il est plus connu sous le terme anglais de biopic, qui est la contraction de biographical picture. Citons parmi les plus récents Alexandre le Grand en 2004 et Marie-Antoinette en 2006.
N'oubliez pas, vivre avec son temps. Le Guépard de Luchino Visconti, sorti en 1963, choisit le prisme subtil des ambiguïtés sociales. Sur fond d'indépendance et d'unification de l'Italie, au début des années 1860, il nous montre l'évolution de l'aristocratie sicilienne à la veille de son déclin. Alors que Garibaldi et ses chemises rouges débarquent à Palerme, le prince Fabrizio Salina, joué par Burt Lancaster, préfère éloigner sa famille dans une villégiature à la campagne. Mais réaliste, il marie son neveu Tancred, joué par Alain Delon, à l'Italie future en la personne de la fille du maire de la ville, à la fortune conséquente. Le Guépard obtient l'année de sa sortie la Palme d'Or au Festival de Cannes.
Le film policier. Vous avez l'esprit fouineur et vous vous laissez facilement prendre au jeu de l'énigme? Le film policier, familièrement appelé polar comme les romans dont il est issu, table sur les péripéties d'une enquête, l'intérêt du spectateur pour les multiples pistes qui finissent par conduire au coupable véritable. L'un des précurseurs en est Louis Feuillade, qui réalise dès 1919 Barabbas, un feuilleton policier en 12 épisodes. Dès son origine, Le film policier reste très lié à son modèle romancé, qui paraît souvent par épisode dans les gazettes et quotidiens, à l'image de l'ancêtre du genre, à savoir les fascinants Mystères de Paris d'Eugène Sue, premier roman feuilleton qui paraît entre 1842 et 1843. Parmi la myriade des bons films policiers, lesquels citer? Voici quelques petits bijoux haletants. Les Amants du Capricorne, sorti en 1949, Fenêtre sur cour en 1954, L'affaire Thomas Crown en 1968, Le Pacha en 1968 et L'année du dragon en 1985. Le suspense savamment entretenu, moteur de l'intrigue, explique en grande partie la permanence du succès de ce genre attesté par la production récente comme Arsène Lupin et 36 quais des Orfèvres en 2004 ou L'Empire des loups et Le parfum de la dame en noir en 2005.
Le saviez-vous ? Chambre avec vue. Fenêtre sur cour, sortie en 1954, dont le titre original est Rear Window, fut réalisé par Alfred Hitchcock. Le scénario nous fait voir une cour intérieure d'immeuble, commune à deux bâtiments, que contemplent L.B. Jeffries, ou Jeff, joué par James Stewart, à longueur de journée. Journaliste, il est bloqué chez lui par une jambe cassée. C'est ainsi qu'il assiste en direct aux fréquentes altercations d'un couple. Puis, plus rien. La femme disparaît de son champ de vision. Seul le mari est encore là. Jeffries commence à enquêter, finit par découvrir l'assassinat de la femme par son mari. Ce dernier fait payer très cher sa découverte au héros, en le défenestrant. Jeff s'en tire avec une deuxième jambe cassée. Réflexion sur le cinéma, sur la fonction du regard à la fois celui du réalisateur, celui de l'acteur principal et celui du spectateur enfin, Fenêtre sur cour demeure une incontournable référence en matière de tension dramatique dans le genre du film policier.
Le film d'action, genre populaire très prisé, fait appel à une succession rapide de scènes, une progression très soutenue des événements. L'intrigue y importe moins que les moyens spectaculaires mis en œuvre pour soutenir l'attention du spectateur. Il repose souvent sur la performance physique de l'acteur principal. La tendance actuelle est à une inspiration largement dérivée des jeux vidéo, comme le prouve la récente série des Lara Croft, héroïne de Tomb Raider en 2001 et Tomb Raider 2, le berceau de la vie, en 2003. Une autre source dérive des séries télévisées à succès, comme Mission Impossible, composée de 171 épisodes et diffusée sur CBS entre 1966 et 1973. Elle est suivie cette fois sur ABC de Mission Impossible 20 ans après, avec 35 épisodes diffusés entre 1988 et 1990. Le succès se poursuit avec la réalisation de trois films pour lesquels l'acteur principal Tom Cruise est également producteur. Mission Impossible en 1996, Mission Impossible 2 en 2000 et Mission Impossible 3 en 2006. Le Road Movie. Le road movie, ou film sur la route, place cette dernière comme fil conducteur. Le lieu défilant permet de relier les péripéties qui surviennent. Sans ce lien fondamental ne resterait qu'une errance décousue. Le modèle du genre est Easy Rider de Dennis Hopper, sorti en 1969, qui filme une traversée de l'Amérique profonde par deux hippies motards californiens, Billy joué par Dennis Hopper et Wyatt joué par Peter Fonda, en route vers leur propre mort, au bord justement de cette route qui ne les mène nulle part. Les autres grands succès du genre sont Mad Max, sorti en 1979, qui ajoute le fantastique à la fiction, Rain Man en 1988, centré sur un humanisme rédempteur au-delà des différences, Dead Man en 1995 et la découverte de l'Ouest sauvage, ou encore une Odyssée revisitée avec Oh Brother en 2000.
Le saviez-vous ? Catégorie meilleur désespoir. Macadam Cowboy, sorti en 1969, de son titre original Midnight Cowboy, le cowboy de minuit, fut réalisé par John Schlesinger. Ce film retrace l'errance de deux paumés. L'un, jeune et belâtre, Joey Buck, joué par John Voight, qui arrive à New York de son Texas natal, persuadé que son physique le fera vivre. Mais sa prostitution de bas étage le mène droit à la rue. Il s'y lie avec Ratso, joué par Dustin Hoffman, un petit bonhomme laid et souffreteux qui devient son compagnon de misère. Ils entreprennent de traverser le pays pour gagner la Californie, dont ils espèrent que le soleil guérira Ratso, et où la plastique de Joe fera sûrement merveille. Ratso meurt en arrivant. Véritable hymne à la solidarité du désespoir, film noir et sans concession, Macadam Cowboy est une plongée ténébreuse dans l'Amérique des paumés. Lors de la cérémonie de remise des Oscars en 1969, le film en reçoit trois. Celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté.